une époque formidable.
Quoique.
Bienvenue dans les matinales de Bartas.
À partir de 8h30.
Quoique.
Le lundi, le mercredi.
Beaucoup de local.
Et puis, un peu d'autre chose.
Les matinales de Bartas.
En direct.
Sur le 107 FM.
J'ai retrouvé mes lunettes.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes. Oulala, je suis tellement fort que je vais me baisser de partout. Bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107 FM. Nous sommes, c'est incroyable, le lundi 15 février, il est 8h30. Aujourd'hui dans la matinale du Joli Monde, dans le studio de la compagnie Arcosme. Vous êtes venu jouer votre spectacle pour les scolaires la semaine dernière. Voilà, ça s'appelle Danse. Non, Sens. C'est un spectacle de danse. Nous sommes ce matin avec Noémie, bonjour.
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 Et nous sommes avec Mathieu, bonjour.
Bonjour.
Et toi, Alexandre, tu es beaucoup trop fort aussi. C'est normal, je n'ai pas de technicien ce matin, tout va bien se passer. Si j'arrive à trouver le bouton qui m'enlève cette réverb, voilà, qui est beaucoup mieux. Voilà, ça va les amis? Et puis celui qui vous a amené, puisque vous étiez à moins de 100 mètres de la radio, était-il conscient de ce qu'il faisait, que vous alliez vous faire happer un lundi matin à 8h30 sur Martha? Ça fait toujours plaisir de l'avoir avec nous. Damien, bonjour.
Bonjour.
Et merci à tous les trois d'être avec nous. Le son se fait tout doucement, c'est lundi matin pour tout le monde. On est tranquille, on est bien sur Bartas. Merci à tous les trois d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, on parle de ce qui est essentiel en ce bas monde, la culture, le spectacle vivant. Bref, on va se faire plaisir. Vers 8h52, à peu près, une nouvelle chronique débarque sur Bartas. Ça s'appelle Histoire Brève. Raphaël vient nous faire plaisir. Raphaël, avec qui j'ai la chance de présenter Clin d'œil à l'histoire, le samedi à 11h. Il y aura de la musique comme d'hab, il y aura votre interview détente, chers invités, mais on commence évidemment, bien sûr, par l'édito. Je me suis fait plaisir ce matin.
Le monde marche sur la tête.
Le monde marche sur la tête.
Le monde marche sur la tête. Mais nous, on retombe toujours sur nos pattes.
Ah, les amis, les amis, je suis encore tout ébobie ce matin. J'ai du mal à me remettre de la semaine dernière et de l'info en une dans tous les JT. Alors que je vaquais à mon occupation favorite, celle de zapper entre BFM Télé, CNews et LCI, la nouvelle m'est tombée dessus et m'a fait l'effet d'une bombe. On dit toujours qu'il faut vérifier ses sources et ses informations. Et pour ceux qui doutent encore du sérieux journalistique de ces excellents médias cité plus haut, je vous assure que là, pour une fois et sans coup faire rire, ils ont bossé plus que jamais pour nous informer de la meilleure façon qui soit. Vous allez me dire, mais Ben, quelle est cette nouvelle qui t'a tant surprise, toi que plus rien n'étonne dans ce monde pourri? Eh ben, je vais vous le dire, mais restez bien assis parce que vous n'allez pas en revenir, tant ça envoie du lourd. Et comme je sais, chers invités, que vous ne vous intéressez pas à l'actualité, vous qui ne vous intéressez qu'à votre petite personne, genre la culture en danger, et gna 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 et gna gna gna, alors que mes médias préférés l'ont dit et répété, ça sert à que dalle la culture, si ce n'est à faire rêver et à lever les consciences, et puis quoi encore. Sans déconner, pareil, j'emmerde Arte et ses foutus concerts pourris, ces films d'une autre époque que plus personne ne regarde. Il n'y a qu'une chose importante, c'est Macron, Macron, Macron et encore Macron, et le Covid, et le vaccin, et le confinement, et le couvre-feu qui compte aujourd'hui, et cette nouvelle qui m'a fait halluciné, les gars, roulement de tambour, il a neigé en plein hiver. Ah, je vous l'avais bien dit, ça allait vous mettre sur le cul. Tu m'étonnes que ça fait la une de tous les journaux. Birmanie, on s'en cogne. La Russie, on s'en balance. La double cuisson des frites interdite en Belgique, mais on s'en fout. Il neige à gros flocons, il fait moins 15. Il y a des bagnoles qui valsent sur les routes, des gamins qui font des bonhommes de neige et de la luge avec un masque. Faut pas déconner. Ça c'est de l'actu, ça c'est du journalisme. D'ailleurs, tous les grands reporters étaient sur place. Jean Fouilletou, le plus illustre d'entre eux, était comme un dingue. Lui qui a couvert la Syrie et le Liban et le Yémen, il n'avait jamais vu un truc pareil, de la neige en hiver. Ah oui, je vous vois là déjà avec votre air goguenard et suspicieux. Hein, vous allez crier au complot, au mensonge d'État. On nous ment, c'est sûr que ça a été tourné sur fond vert. La terre est plate et il n'a jamais neigé en hiver. Eh ben, je vais vous le dire. En tant que journaliste et adorant le travail bien fait, j'y suis allé, moi. Et je l'ai vu, il y avait au moins 2500 mm de neige. J'en ai même mis dans mes poches pour vous le prouver. Bon, d'accord, elle a fondu. Vous me faites marrer, vous, les saints Thomas de l'actu. BFM l'a dit, et ce que dit BFM, c'est vrai. Il y a surtout un truc qui m'énerve, mais qui m'énerve profondément, voilà. À travers cet humour, c'est la hiérarchisation de l'information. Et pendant ce temps-là, il y a quand même 895 000 personnes qui vivent dans la rue en France en 2021. Macron avait pourtant promis de régler la situation, ça le met face à la réalité, et personnellement, moi ça me révolte. Allez, rien à voir, mais puisqu'on n'a plus le droit non plus d'insulter une députée de Poissonnière au milieu de l'Assemblée, vous savez, ce lieu qui ressemble à une cour de récré en pire, ben on écoute, avant de parler de culture et de choses importantes, Pomme Sardine de Madame Claude Michel. C'est en hommage à la grève des sardinières de Douarnenez en 1924 quand même.
Il fait encore nuit, elles sortent et frissonnent, le bruit de leurs pas dans la rue résonne.
Il fait encore nuit, elles sortent et frissonnent, le bruit de leurs pas dans la rue résonne.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Voilà qu'arrivent les peines sardines.
À 10 ou 12 ans sont encore gamines, mais déjà pourtant elles entrent à l'usine.
À 10 ou 12 ans sont encore gamines, mais déjà pourtant elles entrent à l'usine.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Du matin au soir, nettoie les sardines, et puis les font frire dans de grandes bassines.
Du matin au soir, nettoie les sardines, et puis les font frire dans de grandes bassines.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Tant qu'il y a du poisson, il faut bien s'y faire. Il faut travailler, il n'y a pas d'horaire.
Tant qu'il y a du poisson, il faut bien s'y faire. Il faut travailler, il n'y a pas d'horaire.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots.
Les peines sardines, les peines sardines. Oui, je n'ai pas d'interprète, mon Damien, je m'en excuse.
Je t'en prie.
Ceci dit, c'est une chanson qui a été écrite par Claude Michel en 1924. Quand même, on est de retour en plateau avec Noémie, Mathieu et Damien. Noémie et Mathieu, vous avez joué votre spectacle Sens la semaine dernière. Alors, c'était un retour sur scène du public. C'était votre première ou il y en a eu d'autres avant? Précisons que c'était pour les scolaires.
Tu veux dire première de 2021?
Ouais, de 2021.
Ouais, 2021.
Après le gros arrêt quoi, qu'on a eu.
On a eu la chance de le faire un petit peu entre les deux vagues.
C'est ça.
En octobre. Et, ouais. Et là, c'était retour 2021.
Ça fait du bien?
Ça fait du bien.
Alors justement, c'est de la danse. Comment il est né ce spectacle Sens?
Alors Sens, il a été créé en 2018, je crois bien, par le chorégraphe Thomas Guéry, qui s'est entouré d'un scénographe Samuel Poncet, d'un compositeur Clément Ducol, technicien son-lumière Olivier Pfeiffer et Bruno Sourbier, et puis après, du coup, quatre interprètes, Noémie, Michel, Nicolas et moi.
C'est bien de se rappeler de tous les prénoms.
Ouais, c'est ça. Alors, attends.
Au moins, t'as oublié personne, pas de problème. Alors justement, ça fait du joli monde quand même. Comment vous travaillez? Comment ça s'articule tout ça? Comment ça se met en place?
Donc on part par avec des résidences. En gros, on a fait 8 semaines de résidence dans des lieux.
Oui, c'est ça.
On a commencé quoi, en août?
Ouais.
Et on est la compagnie invitée dans plusieurs théâtres pour répéter ce spectacle.
Voilà, et dans le studio, Thomas, il vient avec un thème, il nous décrit un peu ce qu'il veut dans son spectacle. Et la particularité de la compagnie, c'est quand même de créer et la danse et le son. Donc on n'utilise aucun morceau ou bande son préexistante. Donc ça fait pas mal de boulot dans le studio. Et, on lance des petits chantiers au début, on fait pas mal d'impro. Et c'est pour ça qu'on est content d'avoir le compositeur avec nous et d'autres gens qui viennent donner des petits coups de main et petit à petit on construit le truc.
Parce que le principe de cette compagnie, c'est un mélange musique, danse, théâtre.
Ok.
C'est voilà. Donc et... du coup, dans ce spectacle, il y avait trois danseurs et un musicien.
Et pour le coup, il est en rapport avec le court-métrage ?
Effectivement.
Alors le court-métrage qui a été réalisé par Bertrand Guéry, si je ne m'abuse.
C'est ça.
Alors.
Qui est le frère de Thomas Guéry ?
Quand même.
Quand même.
J'aime bien le préciser. Et donc c'est l'histoire de, en fait, si on peut faire un tout petit speech quand même, l'histoire d'un enfant. Ça commence comme ça. Qui ne peut rien toucher, qui ne peut pas faire grand-chose, qui est un peu seul dans son monde,
ouais.
Et puis qui a besoin de s'évader, qui s'invente des petites histoires, c'est un peu ça ?
C'est ça, c'est un peu notre personnage principal qu'on va retrouver après au plateau quelques années plus tard, qui s'appelle Claude.
Claude, c'est ça.
Et le film, c'est pas forcément une introduction ou le spectacle n'est pas une suite du film, mais en tout cas, c'est pour donner quelques clés,
quelques éléments,
des personnages, de la musique. Et après, c'est au spectateur de créer ses propres liens en fonction de ce qu'il se rappelle du film, en voyant le spectacle. C'est comme une résonance un peu.
Ouais, de retrouver un petit peu les sensations de... En gros, ce que voulait Thomas, c'était que le public visionne ce court-métrage deux, trois semaines avant le spectacle, et de se laisser un petit peu comme ça reposer dans le cerveau. Et après, pendant le spectacle, d'avoir
des réminiscences,
exactement.
Ah ouais, parce que ça passe par énormément de choses. Il y a un côté, je vais pas dire, enfin si, un peu tragique quand même. Je vais pas tout dévoiler parce que sinon ça sert à rien. Je le mets en lien sur notre site, évidemment. Allez le voir, auditeur, auditrice, j'ai passé un super moment. Mais il y a aussi beaucoup de poésie. Il y a de l'humour aussi, faut le dire. Enfin, c'était vraiment le désir de passer par plein d'émotions, ce que permet le spectacle et ce que permet la culture en général.
Mmh. Exactement.
Ouais, d'où le titre aussi du spectacle assez sobre, Sens.
Sens.
Pour aller chercher plutôt des sensations, des émotions, comme tu viens de dire, que un sens pop.
Je me souviens que ouais, Thomas, souvent il disait, je voudrais que j'aimerais bien que le public perde le sens aussi en voyant ce spectacle. Il y a une petite histoire, mais après dans le spectacle, il voudrait que arrêter d'essayer de réfléchir à comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'il y a et tout ça, c'est vraiment partir sur les sensations.
Et alors, il y a un métier que vous avez peut-être mis aussi à l'honneur, c'est le métier de bruiteur qui est présent.
Ah oui.
Est-ce qu'il est présent dans le spectacle aussi ?
Carrément, ouais.
Mais exactement.
C'était un peu le prétexte dans le spectacle pour faire du son live. Donc on fait beaucoup de bruitage, enfin, surtout Mathieu et Michel. Et donc il y a une grosse installation, micro, prise de son, le régisseur son Olivier qui est très connecté pendant le spectacle avec nous, et tout le son se crée.
Ouais, c'est du live en fait. C'est que du live. Il doit y avoir un petit. Comme dit Michel, un moment où je me tape sur un décor, c'est une petite. Il envoie un petit son. Sinon, c'est que du live pendant une heure. Et je suis le seul à faire la musique. Et du coup, il y avait le travail avec Thomas et Clément Ducol. C'est aussi très, très appréciable. Et sur scène, il y a un piano, par exemple, qui des fois, joue tout seul. Et puis, comme disait Noémie, le technicien son, il est tout le temps avec moi, quoi, sur scène.
Est-ce que la folie est présente dans le spectacle aussi, telle qu'elle est aussi un peu présente dans le court-métrage ?
Ben déjà, il y a Mathieu sur scène.
Donc, voilà.
Non, c'est vrai que j'ai un rôle un petit peu foufou, quoi, parce que je joue le SDF. Je sais pas si tu vois.
Je vois.
Voilà. On sait pas si c'est un peu dans l'imaginaire, comme tu disais, de ce personnage. Et Thomas, Guéry, dans cette compagnie, c'est assez, assez burlesque, assez foufou. Il adore un peu ce genre de thématique, quoi.
Comment ils ont réagi, par exemple, ici la semaine dernière, les enfants, par rapport à ce spectacle ? Est-ce que vous avez eu une discussion après avec eux ? Ou alors, est-ce que... donc, comment c'était quoi, un peu, leurs impressions ? Qu'est-ce qui est resté pour eux de ce spectacle ?
Bah, c'était assez... c'était extraordinaire, quand même. C'était vraiment... Les enfants, ils étaient... je vais dire au taquet, hein. C'était bien. Ils étaient concentrés pendant le spectacle. On n'a pas eu de... problème. Et après, on a fait donc deux bords plateau, et ils avaient plein de questions. On a eu des super bons retours. Ils se sont laissés embarquer. En fait, les enfants se laissent très vite embarquer, et C'est vrai que le pari de Thomas là, de faire visionner un court-métrage et de voir le spectacle, ça les a vraiment... ils retiennent tout, quoi. Donc toutes les questions qu'on avait, c'était assez intéressant.
C'est la même chose de jouer devant des adultes, entre guillemets, que des enfants. Ou alors, est-ce qu'on adapte un peu le spectacle?
J'ai parlé de ça, justement, le fait de jouer devant un jeune public, on appelle ça. Après, ce spectacle-là, on le joue devant tout type de public. Mais pour moi, c'est un peu nouveau, par exemple, d'avoir un public d'enfants. Et... à part le fait de jouer à 9h45 du mat, qui pique un peu. C'est génial d'avoir une salle très réceptive, en fait. Il y a beaucoup de rires. À la fois, ils sont quand même très attentifs. On sent qu'ils comprennent vite qu'ils ne sont pas devant la télé ou que c'est... Voilà, ils sont très respectueux. Surtout à Flora, qu'ici, on était surpris. C'est les enfants...
on ne s'entendait pas dans ce moment.
Les enfants sages. Mais non, mais plus que jamais. Après, ouais, c'est peut-être vrai. Aussi les salles, avec les mesures, voilà, ils étaient moins pleines que d'habitude. Et c'est intéressant parce que les rires ne sont pas aux mêmes endroits quand on joue en tout public ou en jeune public.
Et l'énergie est différente aussi quand tu joues en jeune public et quand des fois tu joues dans le tout public. J'ai l'impression qu'inconsciemment, même nous sur scène, il y a des moments où on prend plus le temps dans le tout public. Et dans le jeune public, on est un peu plus speed, quoi, on va dire. Et c'est vrai, comme dit Noémie, il y a des passages où le public rit... pas au même endroit, quoi.
On se sent très accompagné quand on joue devant des enfants.
Ouais, c'est vrai. Et puis ça pardonne pas, quoi. S'ils aiment pas, ils aiment pas. Ils le disent. Et ça, c'est très bien. On dit souvent qu'il y a des metteurs en scène quoi qui testent leur spectacle devant un jeune public pour voir si ça marche ou pas.
Il n'y a pas de filtre, en fait. Quoi. Voilà. Il n'y a pas de filtre.
Et puis ça fait tellement du bien qu'ils puissent, eux, au moins, retourner voir des spectacles dans le marasme qu'ils vivent d'aller à l'école avec un masque, les gestes barrières.
Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a entendu là, une phrase là, donc on a eu du jeune public, et après, je crois que c'était des lycéens ou des collégiens. Il y en avait un qui avait dit à la personne qui nous avait programmé ça fait du bien de sortir de la télé, je crois. Ça. Sortir de l'écran et de voir un spectacle.
Quand même, c'est pas les mêmes émotions qu'on ressent.
C'est pas la même chose de voir en vrai des gens.
Toi, t'as la même sensation, Damien, quand je sais pas si t'as déjà joué devant des enfants.
Ouais, nous on avait créé ici Je suis un rêve, qui était un spectacle jeune public aussi. Moi, c'est cette histoire de non-filtre que j'adore. C'est-à-dire que, effectivement, c'est très. Ça peut être très positif et très dans l'échange, mais quand ça passe pas, ça passe pas. Et du coup, c'est un peu un crash test à chaque fois. Et chaque représentation scolaire est ou en tout cas jeune public, c'est un challenge en fait. Contrairement au tout public où tu es un peu plus dans tes pantoufles et tu sais à peu près comment. Voilà, parce que les adultes savent à peu près comment se comporter dans une salle de théâtre, ce qui est super et ce qui en même temps parfois peut être un peu frustrant. Parce qu'on aime bien aussi des réactions à premier degré.
À la limite, ce serait super intéressant d'avoir un metteur en scène enfant.
Et pourquoi pas? Après, bon, le problème de la mise en scène, c'est qu'il y a un peu de technique derrière. Donc voilà, faut un peu des outils. Mais c'est sûr. Mais tu sais, moi, quand j'avais créé, quand j'avais 5 ans, je m'ai tué là, à Florac. J'avais fait faire une lecture par un jeune gars c'était par Abel qui m'avait lu plein de passages parce que je voulais entendre la version intellectualisée, pardon, il est un peu tôt et ça m'intéressait vraiment d'avoir la version de ressenti premier oui parce que voilà t'as encore une fois t'as cette histoire de vérité première non passée par le filtre du cerveau. Enfin, je dis pas qu'ils ont pas de cerveau, hein, là, mais en tout cas, il y a pas l'espèce de réflexion que nous on peut mener derrière ça.
L'innocence.
Oui, exactement.
Noémie, donc tu es danseuse. Comment t'es arrivée à la danse?
Alors moi, ça vient d'il y a très longtemps. Apparemment, je dansais partout dans la maison, sous le sapin de Noël, sur les tables, et donc mes parents m'ont inscrite à 4 ans et demi dans un cours de danse, et j'ai jamais arrêté depuis.
Et comment tu t'es dit que tu allais devenir professionnel? Parce que c'est quand même... alors, un des arts, évidemment, on peut parler du travail de tous les arts, hein, y a pas de problème, mais qui demande quand même une exigence corporelle, une exigence de mode de vie. Tu disais, jouer le matin à 9h45, ça doit être... Enfin, c'est pas la même chose que quand ton corps est réveillé à 18 ou 20h. Comment tu t'es dit, je vais être professionnel et pourquoi?
Mais je pense que c'est peut-être ce qui m'a plu beaucoup dans la danse, le côté très exigeant. Donc moi, assez vite, j'en ai fait beaucoup et j'ai compris qu'il fallait en faire plus et en faire plus. Mais par contre, je ne pensais pas en faire un métier, je ne savais même pas que c'était possible. Ça s'est fait au fur et à mesure aussi parce que j'ai eu très envie de découvrir d'autres styles de danse. Au début, je faisais beaucoup de danse classique et en faisant plus de danse contemporaine, je me suis intéressée aux formations et... Et ça s'est fait comme ça. C'était pas un rêve d'enfant, c'est juste que j'ai jamais eu envie d'arrêter. Et que, force. Je me suis dit, tant que je me casse pas la gueule, je continue.
Pourtant, t'as dû tomber quand même.
Alors, des chutes, il y en a eu. Mais quand même, mon corps a été plutôt sympa avec moi jusqu'à aujourd'hui. C'est ça aussi qui définit beaucoup de danseurs qui se blessent. Donc, tant que ça tient, j'essaie de faire rouler.
Même question un peu, Mathieu, toi ouais. T'es musicien, alors on le sait tous, hein, c'est un métier de feignant, voire même il y en a beaucoup qui disent que c'est pas un métier. Ouais. comment ça t'est venu?
Ben moi, écoute, c'est mon père qui m'avait amené chez une cousine et qui m'avait fait. Qui avait un piano, donc j'avais 7 ans, je tapais sur du piano. Et la cousine a dit, mais tu devrais l'amener au conservatoire. Comme ça, donc mon père il savait pas trop, il m'a amené au conservatoire et il y avait 3 salles, piano, il y avait trop de monde. Après j'ai dit guitare, j'étais trop jeune, je crois. Donc il restait plus que le violon. Alors j'ai commencé par le violon conservatoire, puis après j'ai bifurqué sur la percussion parce que je voulais faire de la batterie. Et ben figure-toi que je me suis plus allé sur la percussion parce que j'avais à l'époque quand tu devais faire de la batterie, tu devais d'abord apprendre un peu à faire du tambour, technique militaire. Et il y avait un professeur qui était tétraplégique et qui m'a touché. Et j'ai aussi vu des instruments à percussion, des claviers, donc marimba, vibraphone, glockenspiel, tous ces trucs-là. Qu'on joue avec des baguettes et ça m'a vraiment plu, donc du coup j'ai bifurqué sur la percussion classique.
Qui dit conservatoire dit solfège.
Voilà.
Alors à tous ceux qui sont peut-être butés par le solfège, tu pourrais leur dire quoi?
Il faut un peu oublier le solfège, quoi. C'est vrai que ça fait peur, mais il y a plein de gens qui arrêtent à cause du solfège, mais il faut passer outre.
J'avais un prof de solfège qui disait on apprend un langage en faisant du solfège,
mais
pas. Donc en fait c'est vrai que maintenant les approches sont très différentes peut-être.
Je pense,
que nous à notre époque, puisque nous avons un âge avancé, n'est-ce pas?
Mais, exactement.
Damien, tu connaissais ce spectacle avant?
Non, moi je connaissais pas du tout, je l'avais pas vu du tout. Je connaissais Noémie depuis quelques années, on a travaillé ensemble notamment sur le spectacle de Ward Button. Et non, j'ai découvert le spectacle à Florac et je dois te dire que c'était un moment un peu hors du temps pour plein de raisons, parce que voilà, on est dans une situation complexe et pas drôle, et qu'en plus voilà, c'est un spectacle qui fait vraiment appel à l'imaginaire, et moi c'est un peu mon dada aussi, c'est vraiment ce que j'aime au théâtre, c'est quand on te donne pas la béquille et qu'on te dit bah non, t'es public mais tu vas bosser un peu dans de manière très agréable, mais voilà, et c'est là où tout d'un coup on fait appel à des réflexes d'enfant en fait. On dirait que quoi, on n'a qu'à dire que, et c'est vraiment un spectacle, on n'a qu'à dire que, et il y a un côté des histoires qu'on peut s'inventer dans le cours de récré, mêlé à ça une technique, et je pense à la technique dans tous les sens du terme, c'est aussi bien au plateau que des interprètes, totalement irréprochable et très inventive. Donc il y a forcément, c'est un spectacle qui touche énormément, et dans l'émotion, dans toutes les émotions en tout cas.
On continue la discussion dans un instant. On va aussi parler de votre compagnie qui s'appelle Arcosme et puis Sens. Et puis on va parler aussi un peu d'actu et de les difficultés que vous pouvez rencontrer et que d'autres rencontrent.
Je suis très perturbé. C'est vrai, une vraie info, l'histoire qu'on peut plus cuire deux fois les frites en Belgique.
Ça arrive tout doucement, mais ils se rebellent. Ouais. Et du coup, ils mettent des grandes pancartes au-dessus des friteries pour dire non. Mais,
ah bah non, c'est chaud. Non à la cuisson unique. Mais...
on se retrouve dans un instant. Pourquoi? Parce que ça... C'est lundi et une nouvelle chronique, un nouveau chroniqueur ou presque à Radio Bartas, puisque j'ai la chance de faire clin d'œil à l'histoire une fois par mois avec lui. Salut Raphaël.
Bonjour tout le monde.
Histoire brève, nouvelle chronique. T'es chaud?
Ça va.
Allez, on y va, jingle.
Si tu fais pas l'histoire, c'est pas l'histoire qui va te faire.
Hein?
Histoire brève,
histoire brève.
Pour cette première, mon cher Ben, j'ai décidé de vous parler d'une région du monde dont nous allons jusqu'à ignorer totalement l'existence, un peu comme l'a fait l'histoire du XXe siècle, puisque tous ces petits pays au nom chatoyant étaient regroupés au sein de l'Union des Républiques Socialistes et Soviétiques. Mais depuis 1991 et l'annonce de Mikhail Gorbatchev, l'homme à la tache de vin qui annonça l'émancipation de toutes ces glorieuses notions de la vodka, nous avons dans cette région assisté à la naissance d'une myriade de nouveaux États regroupés autour de la triste mer d'Aral. Ces pays, nous pouvons en mentionner quelques-uns, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Turkménistan ou encore l'immense Kazakhstan. Et attention, cher Ben, de ne pas oublier les H et les Z muets de tous ces noms. La vérité, c'est que nous ne connaissons pas grand-chose de ces pays. Monsieur de Paris, pourriez-vous me citer par exemple la capitale du Turkménistan, la langue que nous y parlons, la monnaie qui circule, la couleur de son drapeau. Malheureusement non, car pauvre profane avec sylologie, vous pensez que la forme que nous observons au cœur du drapeau kirghize est une boule de pétanque, alors qu'il s'agit en fait du soleil traversant l'armature des yourtes lorsque nous observons le ciel du cœur de ces habitations typiques. Aujourd'hui, ce pays connaît une actualité politique des plus mouvementées, qui fait justement écho à ce que nous avons tous vu au Capitole aux États-Unis le 6 janvier dernier. Savez-vous vraiment ce qui s'est passé au mois de janvier au Kirghizistan ? Ce pays, l'un des plus pauvres de la région, a toujours été connu pour son pluralisme politique, et ce depuis sa naissance il y a 30 ans. Le 10 janvier dernier, lors des élections présidentielles, c'est Sadir Japarov qui a été élu avec un score de 80%. Ce candidat populiste atteint le firmament aujourd'hui, alors qu'en octobre dernier, il était encore en prison pour... d'après vous ?
Attends, tu me poses une colle encore.
Prise d'otage.
Ah bah voilà.
Il aurait en effet kidnappé un opposant politique en 2013. Capturé en 2017 pour ce forfait, il est alors condamné à 11 ans et demi de prison. Et le 6 octobre 2020, alors que le gouvernement kirghize est secoué par des manifestations au lendemain d'élections législatives contestées, ses partisans s'attaquent au bâtiment officiel et le libèrent. Dès lors, ce dernier connaît une ascension fulgurante qui l'ont mené, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la tête de l'État. En plus de son élection, il obtient une réforme de la constitution kirghize, que je crois que vous connaissez par cœur d'ailleurs, monsieur de Paris, et qui lui donne la primauté sur le Parlement. Quelle brillante idée! Sadir Japarov a d'ores et déjà déclaré que, je cite, « la minorité doit se soumettre à la majorité » et a promis une dictature de la loi. Cela est d'autant plus rassurant lorsque l'on sait que seuls 39% des Kirghizes ont voté et alors que la mission d'observation de l'OSCE, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, note une inégalité des chances des candidats. De belles perspectives donc pour ce pays d'Asie centrale qui finalement se fond un peu plus dans le même moule que ses voisins, à savoir des pays menés par un régime autoritaire indéboulonnable. C'est ce vers quoi tend aujourd'hui le Kirghizistan et ses 6,5 millions d'habitants.
Sacré Sadir.
Et c'est déjà ce à quoi étaient déjà habitués le Tadjikistan, l'Ouzbékistan et surtout le Kazakhstan, qui ne connaissent que cela depuis leur création en 1991. Décidément, nous n'avons pas fini de confondre tous ces pays d'Asie centrale, mon cher Ben.
Merci Raphaël, on se voit dans 15 jours.
Oui, à dans 15 jours.
Et on écoute quoi ?
Three Days of Grace, la chanson Riot, qui veut dire émeute.
Voilà qui réveille le matin.
Ah oui, ça réveille ça.
Riot, Days of Grace. C'est de retour en plateau avec Damien, Noémie et Mathieu. On parle de danse, on a parlé de votre spectacle Sens. Mais vous faites partie de la compagnie Arcosm dans mes pérégrinations et en préparant cette interview. C'est pas une petite compagnie, dis donc. Il y en a du monde à l'intérieur.
Oh, il y a du monde, ouais. Beaucoup de monde.
Alors, est-ce que c'est important de créer ou d'appartenir à une compagnie ?
Je comprends ça.
Alors attends, il y a deux questions cachées dans une question.
Ouais.
De créer ou d'appartenir, vas-y, Mathieu.
Ouais. Nous, donc là, ouais, dans cette compagnie, on est interprète. Et déjà, ce que je voulais dire, c'était par rapport au fait que je faisais la percussion classique. je savais pas trop ce que je voulais faire. Et quand en percussion classique, dit conservatoire, dit orchestre, et l'orchestre percussion, c'est les triangles, les timbales, les casques clairs. Et en fait, j'ai vu un spectacle quand j'avais 17-18 ans qui s'appelle Ecoa de la compagnie Arcosme, cette compagnie-là. Et quand j'ai vu ce spectacle, qui a quasiment 20 ans et qui a joué partout, genre plus de 1000 représentations dans le monde, ça m'a donné envie de faire ce métier. Donc ça, c'est assez important de le dire. Et je ne savais pas du tout qu'un jour j'allais jouer dans cette compagnie. Et j'ai commencé avec eux en 2010, pour le spectacle qui s'appelait Traverse. Donc quand tu es interprète et que tu veux être un peu intermittent et être dans un spectacle vivant, c'est vrai que c'est assez important d'être dans des compagnies. Et après, avec un ami, j'ai créé aussi une compagnie.
En parallèle. Pourquoi ? Parce que c'était d'autres projets, en fait.
Voilà, c'est ça. Et je suis musicien, mais je m'intéresse aussi à d'autres pratiques artistiques. Dans le spectacle sens, je danse un petit peu, je fais un peu de théâtre et tout ça. Donc du coup, je joue dans plusieurs compagnies, dont celle-là, la compagnie Arcosme.
Noémie, du coup, Mathieu disait évidemment que c'était important soit d'avoir une compagnie, soit d'en créer une. Voilà. Et toi, comment t'as intégré cette compagnie Arcosme ?
Moi, je suis partie d'un parcours où j'étais d'abord dans une structure assez grande au Ballet National de Marseille, donc en CDI, avec du coup un fonctionnement où tu ne travailles pas pour des compagnies, mais pour une compagnie en fixe, donc tu fais que ça. Et c'était génial pour une première expérience. Je me suis rendu compte que, comme Mathieu, j'aime bien rencontrer différents univers, et j'ai commencé à rencontrer différentes compagnies. Et aujourd'hui, je travaille pour 4-5 compagnies différentes. Mais je pense qu'il y a plein de schémas possibles. Voilà. Par contre, moi, je n'ai pas eu envie de créer mon propre...
Ta propre structure.
Voilà, ma propre structure pour l'instant, parce que j'aime bien la liberté d'être interprète et d'être à fond sur un projet, puis un autre, et pas forcément trimballer toujours mes propres problèmes avec ma propre... Ou alors, ça peut être génial, hein, mais je veux dire, c'est moins de poids. Par exemple, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe... Je me dis, waouh, j'ai de la chance de ne pas avoir de gestion. Voilà.
On va en parler justement, mais oui, d'où les 4-5 compagnies aussi, ça multiplie les rencontres, ça multiplie les projets. C'est génial en fait.
Ouais, c'est casse-tête des fois, mais c'est vrai que moi j'aime bien ça. Tu fais un peu des Lego sur ton planning.
Oui, c'est ça, puis ça permet aussi de voyager en fait, hein, de visiter plein de villes ou même des fois des pays où tu n'avais pas forcément l'intention d'y aller ou quoi, et de rencontrer des différents publics. Français, allemand, tout ça. Et c'est vrai que ça permet, pour moi, je voulais voyager. Et ça m'a permis de voyager.
Toi, Damien, qui fais de la production aussi, justement, le travail de compagnie, enfin, les compagnies en général, c'est important, selon toi ?
C'est important, ça permet de structurer un travail et surtout de... Effectivement, comme disait Noémie, ça peut être emprisonnant et par moments compliqué, mais c'est aussi une vraie liberté de lancer tes propres projets. C'est-à-dire que quand tu as un projet dans la tête, rien ne peut t'arrêter. Si t'as rien ne peut t'arrêter. Si, évidemment, tout peut t'arrêter, mais je veux dire, quand tu as une structure, tu as au moins la liberté de te dire, voilà le projet que j'ai envie de mettre à l'affiche de la compagnie que je dirige ou que je crée ou que je vais créer. Ça te permet cette liberté-là.
En tout cas, on se rend compte, hein, maintenant, on en parle quand même énormément, il y a du monde qui gravite autour du monde du spectacle.
De la culture, hein,
et
général,
de la culture en général. Parce évidemment, on pense aux intermittents, mais il n'y a pas que, il y a aussi plein de monde. Quoi. Ici, ça peut être des attachés de presse, on en passe les meilleurs. Damien,
oui.
C'est quoi ton regard sur la situation actuelle pour la culture ?
Écoute, pour l'instant, c'est très compliqué. Alors, on a la chance d'être accompagné un petit peu, c'est-à-dire qu'on a la tête hors de l'eau, financièrement, j'entends. Et là, je pense plus au niveau des intermittents. Malheureusement, le reste, voilà, je connais moins et c'est sûrement beaucoup plus compliqué. On nous maintient la tête hors de l'eau, on nous empêche de travailler, mais pour l'instant, on ne meurt pas et on n'est pas complètement noyé. Moi, ce qui me pose souci, c'est ce qui va se passer dans quelques mois. Je pense que l'hécatombe, elle est à venir et elle n'est pas maintenant. Je pense que l'hécatombe, elle est à la rentrée. Évidemment, je ne le souhaite pas, mais quand tout le monde va être OK, on ne va pas rentrer dans les détails de ce système un peu compliqué, mais néanmoins formidable. Mais quand tout le monde va être recalculé sur ses heures d'intermittence, de chômage, tout ça, je pense que la vraie catastrophe, elle est à venir et elle va être à ce moment-là. Mmh. Et après, voilà, on a hâte de rejouer. Moi, j'ai pu, comme Noémie et Mathieu, j'ai créé un nouveau spectacle là, qu'on a pu jouer dans un lycée. Donc, il y a quand même des petites ouvertures. Mais voilà, je pense qu'on a hâte de revivre des moments de spectacle vivant, c'est sûr. C'est sûr.
Ouais, mais même si on ne va pas rentrer effectivement dans le statut d'intermittent qui est complexe, mmh, dans les droits, etc. Enfin bon, on va pas rentrer dedans, c'est sûr, surtout pas lundi matin à 9h10. Mais même question un peu, une année blanche, là, donc jusqu'en août 2021, apparemment, pour vous, ça va être le cas, Noémie et Mathieu. Donc vous, en tant qu'intermittent établi, on va dire, donc vous avez votre statut depuis plusieurs années, vous n'aurez pas trop de problèmes. Par contre, pour ceux qui veulent et qui n'ont pas eu leur intermittence avant février 2020, ça risque d'être chaud.
C'est ça.
Oui, mais même pour les intermittents établis, ça va être compliqué parce que quand on va être renouvelé, ils vont calculer sur un nombre d'heures qu'on n'aura pas fait ou qu'on aura fait en chômage partiel. Donc, on risque d'avoir des taux d'indemnisation extrêmement faibles. C'est là où, même pour des gens comme nous trois, je pense que c'est là que ça risque d'être très compliqué.
Ouais. Pour l'instant, c'est vrai que comme on est intermittent, comme dit Damien, là, ça va. Ouais. Ouais. Alors que si tu es en train d'être intermittent, tu galères déjà maintenant.
Bah c'est l'enfer.
Je pense que pour les nouveaux intermittents, ça doit être... vraiment pas évident, quoi. Ceux qui voulaient se lancer et qui ont été boum d'un coup arrêtés.
Ouais, qui ont été arrêtés, ouais.
Ce qui n'est pas très confortable, c'est que on sait plus ou moins ce qui va se passer, mais pas exactement. Donc il y a cette anticipation de jusqu'à quel point ça va être la cata.
C'est ça.
Oui,
c'est
est-ce
ça.
Que mon spectacle sera créé? Parce qu'il y a plein de compagnies, même des jeunes ou quoi, qui peuvent répéter dans les salles, mais est-ce qu'ils peuvent le jouer? Parce qu'il y a plein de reports de spectacles qui devaient se déjà jouer en 2020 qui sont reportés en 21, 22, 23. Donc c'est vrai que c'est la question, on est un petit peu, on attend quoi. On est en termes d'attente.
Et puis il y a un autre truc qui est formidable, mais qui est aussi à double tranchant, c'est qu'il y a énormément, comme les répétitions ont été autorisées au mois d'octobre, quand ils ont fait le deuxième confinement, du coup il y a une multitude de spectacles qui se créent, et c'est... c'est évident, il suffit d'être un tout petit peu malheureusement réaliste, qu'on déteste être, mais quand même, pour savoir que bah voilà, tous ces spectacles-là ne pourront pas forcément tous se jouer. Quoi.
Il va y avoir embouteillage.
Il va y avoir gros embouteillage, oui.
Alors, ce serait possible de jouer dans les transports en commun, puisque le virus ne circule pas.
C'est vrai, c'est une solution. Mais c'est vrai que tu te dis, voilà, comme on fait des scolaires, on va dans les lycées, on enfourche le tigre, comme dirait je ne sais plus qui.
Je ne sais plus non plus qui a dit ça.
Je ne sais plus. Mais ça a tourné un moment.
Alors justement, Mathieu, c'est au-delà du fait que vous avez la tête hors de l'eau, tu penses quoi de la gestion de cette crise au niveau culturel?
Je comprends pas trop. En fait, je me dis que je sais pas. En fait, je me dis s'ils annulent tout, c'est qu'il y a. Enfin, je comprends pourquoi ils font ça. Je me dis juste que peut-être que il y a des solutions comme. comme genre le Facebook Live, tous ces trucs-là, il y a plein de gens qui jouent en concert live et tout ça. Moi, j'imaginais un casque virtuel où tu regardes un spectacle comme ça, tout seul. Et j'ai l'impression que, je veux dire, l'être humain a toujours des solutions pour gérer ça. Moi, ça ne me parle pas trop, tous ces trucs-là. Mais je me dis peut-être les jeunes là, qui arrivent, ils vont pouvoir... trouver des solutions avec des logiciels comme Instagram, je sais pas, Facebook, tous ces trucs-là, YouTube Live. J'ai l'impression que qu'il peut y avoir des solutions. J'ai envie d'être un petit peu optimiste, mais après, c'est tout un truc qui me parle pas trop. Me dis pourquoi pas. Pourquoi
spectacle
pas,
vivant. Même,
ouais, spectacle vivant, voilà.
C'est ça,
mais l'être humain est assez. Il y a beaucoup d'énergie. Et voilà,
de l'énergie quand même.
Donc je pense qu'il y a quand même des solutions qui arrivent. Et c'est vrai que je comprends pas trop pourquoi on annule tout ça, donc je me dis on ne nous dit pas tout, mais bon, je pense que ouais.
Mais aussi ces annulations, je trouve que ça aiguise un peu encore plus l'envie de faire des choses. Et moi, je vois par exemple à Paris, il y a des spectacles qui se font clandestinement, il y a encore plus cette envie de. Alors, c'est pas la majorité, mais. Et j'imagine que ça va créer encore plus un élan aussi de trouver, peut-être d'ouvrir les théâtres sur d'autres plages horaires, d'ouvrir les possibilités.
De s'adapter, de trouver des solutions en fait.
Ouais, j'ai entendu parler qu'il y a des gens qui proposent dans des cinémas, je sais pas où, je sais pas si c'est en France, ils proposent à des jeunes de venir jouer aux jeux vidéo dans leur cinéma. Tu loues le cinéma pour 10 personnes, il y a un maximum, genre 9-10 personnes, et tu peux jouer à des jeux vidéo avec le grand écran. il y a des trucs qui vont se passer. Il y a aussi des hôtels où tu peux regarder le cinéma dans une chambre d'hôtel.
Après, ce qui est compliqué, je pense, parce qu'effectivement, Noémie a la raison, ça crée une espèce d'attente, d'énergie. Ce qui est compliqué, c'est d'entretenir l'énergie. C'est-à-dire qu'à un moment, on s'épuise un peu aussi. L'attente, elle est fatigante. Alors, effectivement, t'as envie, mais je sais que moi, j'ai beaucoup d'artistes autour de moi qui travaillent pour garder l'envie, mais c'est pas facile. C'est compliqué quand t'as pas la finalisation, quand tu répètes. Ouais, c'est ça. Tu répètes. À un moment, le spectacle, c'est fait pour être joué. Et les dernières phases de répète, c'est les phases en public. Un spectacle, il n'est jamais créé tant qu'il n'est pas joué devant un public.
Et ce qui va nous manquer aussi, c'est les tous. À un moment, pendant les petits blancs, là, tous ces gens qui toussent en même temps.
Oui, c'est ça, les tous. Il y a aussi un truc intéressant, c'est qu'on peut être public si on est figurant.
Ah oui, ça c'est vrai.
c'est très drôle. Il y a des gens qui cherchent des personnes... Pour faire une captation avec du public, et si t'es figurant, tu peux aller dans la, si t'es payé, tu peux être public. C'est marrant quand même.
Ouais, et ça, du coup, ils reprennent le système qu'on a connu à la télé en fait.
Ouais, c'est ça.
Tous les premiers rangs étaient des intermittents.
Complètement.
À votre avis, tiens, Noémie d'abord, est-ce qu'on va pouvoir retrouver une vie comme avant?
Le comme avant, je pense que c'est pas forcément le mieux. Après, en tout cas, retrouver quelque chose qui pétille et où on a plus de liberté, c'est évident que je souhaite ça.
Mathieu ?
Je pense pas qu'on va retourner comme avant, quoi. Ça a toujours été comme ça, j'ai l'impression, dans ma vie. Donc, on va s'adapter.
Ça, c'est le mot, résilience, adaptation. Ouais. C'est vrai, Damien, on s'est aperçu qu'on avait une capacité de résilience en tant qu'être humain qui est assez
folle. Ouais, mais qui peut parfois toucher à la soumission, quoi. C'est là où la frontière est ténue et fragile. C'est qu'il faut, effectivement, à un moment, t'es obligé d'eux, mais il faut garder quand même, garder un petit peu de sens critique. Sans tomber dans le complotisme, ouais. Sans tomber dans des choses qui ne sont pas rationnelles. Mais la soumission est évidemment dangereuse.
C'est ça, rester vigilant en fait.
Ouais, vigilant. Vigilant et attentif et en appétit de tout un tas de choses. Ouais.
Ceci dit, on voit quand même... alors ce qui est dingue en période de pandémie, là, ça fait quelques semaines qu'il y a des manifestations qui ont lieu et on se dit, ouais, ok, peut-être résilient, mais pas con quand même.
Ouais, c'est ça, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire de pas être soumis, de pas se faire annihiler toute forme de réflexion, quoi. Mais c'est vrai que le spectacle permet ça aussi. Juste pour redire un mot sur sens, c'est vraiment ça que ça permet aussi, ce genre de spectacle. C'est-à-dire tout d'un coup, rester en éveil, rester en appétit. Moi, quand je travaille, quand je répète, j'ai l'impression d'être dans une curiosité presque enfantine, quoi.
Et ici en Lozère, en plus de ça, on a eu de la chance depuis un an maintenant, on va exister déjà avant, mais d'avoir une capacité de solidarité qui est assez dingue. Et d'ailleurs, c'est encore ce qu'on a vu ce week-end à Mende, notamment pour les 17 personnes menacées d'expulsion. Ouais. C'est quand même bon. Alors, est-ce que vous l'avez vu, vous, dans le spectacle aussi, cette solidarité? Est-ce qu'il y a de l'entraide ou est-ce que finalement chacun doit tirer son épingle du jeu et c'est compliqué?
C'est compliqué parce qu'on se... Enfin, moi, j'ai pas... Je laisserai évidemment les autres s'exprimer, mais moi, on se voit pas beaucoup, quoi. On se voit pas beaucoup. Donc, on sait que les gens travaillent, on sait que les gens répètent, on sait que... Voilà. Mais on se croise plus. On se croise plus dans les trains en partant en tournée, on se croise plus dans les théâtres parce que les théâtres sont fermés. Donc, il y a... Si tu veux, la solidarité, elle est aussi virtuelle. En fait. Elle manque de concret, elle manque de rapport humain. C'est de ça dont on manque le plus. Hein. C'est vraiment le rapport humain, en fait. Et nous, d'autant plus dans nos métiers qui sont, où on passe un quart d'heure à travailler, trois quarts d'heure à tchatcher, quoi.
Noémie ?
Ouais, je suis assez d'accord avec Damien. La solidarité, c'est pas le mot qui me viendrait en premier là. Par contre, je pense qu'il faut qu'on se recopie sur oser prendre des risques et solidaire dans le sens que si moi j'ai un ami qui organise quelque chose et qui dit venez, je vous présente ça, ok, c'est interdit, mais en fait moi j'estime que je prends risque et se dire ok, si des choses se font, on y va
et, faut y aller, quoi.
Et être force aussi de proposer. On peut faire du plein air, on peut faire pas mal de choses sans être foufou.
Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr.
Oui, c'est ça, je rejoins les deux. Ouais.
Ah, la pensée unique.
Ça y est, ça y est.
Jouer dans la rue, quoi. C'est peut-être la base du spectacle vivant, c'est.
Bien sûr.
C'était ouais. Jouer dans la rue.
Ouais.
On va faire peut-être des spectacles pirates. Il y a plein d'endroits où ce qui joue pas, ou même des lieux un peu historiques, ou des anciens théâtres gallo-romains, où tu peux venir avec un. Tu viens un tapis, tu déroules le tapis, tu joues, tu chantes pour les gens qui viennent et un peu.
Bon, en ce moment, il faut des couvertures voilà, un peu. Puis, en plus.
Et puis si les flics arrivent, tu pars vite.
C'est clair.
Ouais.
Non, ou tu les. Tu dis, ah ben.
Non, tu me venais,
ouais. Ouais, voilà, voilà les intermittents de devant.
Tu leur prépares des sièges à la
main. Ouais, c'est ça.
Damien, tes projets pour 2021 ?
Et ben justement, essayer de, voilà, dès que ça va repartir, de créer ce spectacle sur, qu'on a joué dans un lycée là en Ile-de-France, un spectacle sur la Révolution française, qui est un monologue, voilà, qui va se jouer au théâtre de Poche-Montparnasse, dès que le théâtre de Poche-Montparnasse pourra rouvrir, et après en tournée, j'espère, pourquoi pas par ici.
À la Jeunette Verte en 2023 ? Parce qu'en général.
On verra. Et sûrement, voilà, si à table qu'on devait jouer à la soupe cette année, enfin en 2020, pardon, qui a été voilà, annulée, voilà, on essaye de voir si on va pas le jouer un peu dans la com-com, faire un peu de décentralisation sud-lausérienne.
Et croisons les doigts pour la soupe l'année prochaine.
Exactement.
Quand même. Vos projets pour 2021, Noémie Mathieu ?
Moi, projet, c'est un mot que je mets un peu en sourdine en ce moment, mais du coup, comme beaucoup de temps libre, parce que répétition suspendue, le projet, c'est aussi pour moi de m'occuper du bien-être jour après jour, faire à manger,
du pain.
Être avec les gens que j'aime bien, voilà. Et puis, après, là, les répétitions vont reprendre en avril, je suis sur un spectacle de Ozinski qui sera avec une chanteuse lyrique et je travaillerai cet été, cet automne en Suisse sur un spectacle de danse avec Nicolas Turica. Voilà.
Une question un peu subsidiaire, la danse, je suppose que là, surtout pendant le premier confinement, parce qu'après, bon, ça s'est un peu assoupli, mais ça a dû te manquer le contact avec un danseur, une danseuse. La danse, c'est du contact.
Oui, alors moi j'ai eu de la chance, j'ai fait les choix de, justement, que je disais tout à l'heure, de prendre un peu des risques et de quand même m'entourer d'artistes et d'amis. Mmh. Donc on a continué tous les jours à créer sans forcément de but très précis, mais en tout cas d'entretenir le corps et l'envie, comme disait, qui peut vite se... Après, on n'est pas non plus. On a l'habitude en tant qu'intermittent d'avoir des périodes moins remplies. Donc. C'est aussi une habitude de savoir lâcher un peu, de se nourrir d'autres choses et d'avoir encore plus envie d'y revenir après. Quoi.
Mathieu, 2021 pour toi ?
Alors 2021 pour moi, il y a des spectacles qui ont été annulés qui vont normalement être reportés. Donc un spectacle de Pierre Guillois qui s'appelle Le Mars 2037, une comédie musicale spatiale avec des chanteurs lyriques et des musiciens. Donc... je suis le musicien Sacha Enchanté, avec un petit rôle, commissaire Freezer. Et qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ben, y a avec la chanteuse Camille, elle appelle ça des mandalala. Donc c'est faire participer le public avec du chant et de la danse. Donc chant, danse, contact, là, laisse tomber en ce moment, c'est un peu foutu. Mais normalement, ça devrait reprendre. Voilà.
L'excellente Camille, d'ailleurs. On arrive tout doucement à la fin de cette émission. Est-ce que vous êtes prêts pour votre interview détente ?
Prêt !
Jingle. C'est l'heure de l'interview détente.
Bah ouais, parce que j'ai pas le droit de dire feel good.
Non, faut parler français. Alors, Noémie, un livre que tu conseillerais aux auditeurs auditrices ?
Le premier livre qui m'a fait un gros coup de cœur, j'avais 18 ans, ça s'appelle Le Parfum, de Patrick Süskind.
Qui a été décliné en film il y a quelques années.
Oui, mais lisez d'abord le livre, ouais. Si vous n'avez pas
j'ai
encore
vu le film, j'ai jamais vu le bouquin.
Le bouquin.
Mais j'ai promis d'apprendre à maman d'apprendre à lire dans
le film. Oui, apprends à lire parce que le bouquin est vachement mieux que le film.
Yes. Donc Le Parfum. Mathieu ?
Moi, un livre qui m'avait vachement marqué, c'est Aurélien de Louis Aragon. Pour la beauté des mots et la beauté de cette rencontre avec Bérénice.
La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouve à l'aide.
Ça te plairait, tiens, de mettre en scène du Aragon ?
Non, j'ai fait des lectures publiques d'Aragon, mais j'ai pas mis en scène Aragon. Non.
Ça te plairait ?
Dans l'idée, c'est comme dit Mathieu, moi je suis très sensible à la beauté des mots, à la beauté des sons. Donc oui, dans l'idée, pourquoi pas, ouais. Oui.
Tiens, je repense à quelque chose dont on avait parlé l'année dernière ensemble. Tu sais, Émilie, notre chère Émilie, qui présente Prosopopée sur cette émission, qui avait dit qu'il n'y avait pas de femmes à table.
Oui.
Est-ce que ça a changé ? Est-ce que t'as écouté ?
Joker. Ok.
On continue l'interview détente. Mathieu, ouais. Une série ou un film ?
Une série ou
les
deux ?
Oui, les deux. Vas-y, les deux.
Un film qui...
Ah, fais-toi plaisir. C'est,
la série, il y a une série que j'aime bien qui s'appelle... alors, c'est en anglais, il faut te dire, c'est High Maintenance. C'est comme ça ?
Ouais, c'est magnifique.
C'est un New-Yorkais dealer qui rencontre, donc il va dealer son shit, sa beuh, dans différentes personnes qu'il ne connaît pas trop. Il y a toujours des gens un peu atypiques, un peu foufou. Et vraiment, j'adore cette série. Et si je peux me permettre de sortir un film qui m'a vraiment, 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 vraiment ému quand j'avais 15-16 ans. Mais pas parce qu'il est mort, hein, mais Un air de famille avec Bakri, mais... Ce film a vraiment bouleversé, quoi. Ouais. Je l'ai vu plusieurs fois.
C'est extraordinaire, Bakri, hein. C'est une merveille.
Extra.
Pareil, il y a un film ou une série, ou les deux.
Film, moi j'ai été très touchée par Marie et Max. Marie et Ma-R-Y, qui est une petite perle australienne faite en pâte à modeler. On en connaît pas mal des francophones, mais celui-là, je ne m'attendais pas du tout, je suis tombée dessus par hasard. Et c'est hyper poétique, ça parle encore de s'envoyer des lettres, c'est une correspondante en Australie qui envoie des lettres à quelqu'un qu'elle a trouvé au hasard dans le butin aux États-Unis. Et je ne sais pas comment vous dire, si vous passez devant, regardez-le.
Une chanson.
Alors voilà. Attends, parce que moi je voudrais juste faire une promo pour un livre. J'ai le droit.
Alors là, avec plaisir.
Non, mais quand même, petit lien avec ici, c'est mon amie Sarah Biasini, qui est venue plusieurs fois à Florac, et qui a écrit un livre qui s'appelle La beauté du ciel, où elle parle beaucoup du rapport à sa fille et à sa mère, qui était Romy Schneider. Et en fait, je suis très touché par ce livre parce que ça aurait pu être un témoignage poubelle. Et il se trouve que c'est de la grande littérature, qu'elle écrit formidablement bien, que c'est d'une émotion très palpable. Et c'est très pudique, mais en même temps, on la raconte beaucoup. Donc, cette espèce d'aller-retour entre l'intime et l'universel. Et je trouve que c'est très réussi. Ça s'appelle La beauté du ciel et c'est chez Stock. J'adore faire de la promo.
Et je mettrai le lien sur notre site dans un instant.
Oui.
Et tu la ramènes à 100 mètres de la radio. Ouais. Tu vois, dans quelques
prochaine temps, matinale, mais pas en direct. Hein.
Merci, Myriam, c'est tout bon. Où est-ce qu'on en est ? Oui, une chanson, un artiste. Une artiste.
Il y a un truc que j'aime qui s'appelle YN, Bémé des bombes. Voilà.
Qu'on
écoutera. On peut écouter ?
On écoutera tout à l'heure, cool. Carrément, à la fin de cette émission. Avec plaisir. Et Noé ?
Moi, en musique, ce serait Silver Mount Zion, qui est un groupe canadien, je crois. Et ils ont fait un très bel album. C'est un peu vieux, je crois, maintenant, mais voilà, j'aime beaucoup. J'ai créé aussi sur ces musiques-là.
Eh ben voilà, ça fait du bien de parler de culture et des choses qui nous font vivre le spectacle au sens. On aura de la chance de pouvoir venir le voir.
Peut-être. Non, on sait pas. Hein. C'est vraiment pas.
En tout cas, ben voilà, les enfants auront eu la chance.
Il y a le court-métrage.
Et il y a le court-métrage de Bertrand Guéry, qui est le frère de Thomas Guéry.
C'est ça.
Voilà.
Mais par contre, ils sont en train de faire
un important de ce matin.
Ils sont en train de faire un nouveau spectacle, peut-être qu'il va être joué ici, qui s'appelle Hôtel Bellevue, avec Bertrand et Thomas. Là, ça sera filmé en live avec un écran. Et en plus, il y aura les interprètes.
Croisons les doigts. En tout cas, le spectacle Sens, à la composition musicale, c'est Clément Ducol. Regard musical, Quentin, L'Homme ou Roux.
Ouais.
Création Lumière, Bruno Sourbier. Création sont Olivier Pfeiffer, scénographie Samuel Poncet et dramaturgie Cédric Marchal. Voilà, comme ça on aura cité tout le monde. Et ouais, les comédiens sont les deux autres que je n'ai pas,
Nicolas Gros-Claude
et Michel Lecoq.
Et au moins, comme ça, la boucle est bouclée. Merci beaucoup, Noémie. Merci beaucoup, Mathieu.
Merci à
toi. Allez voir ce court-métrage. Je mets le lien. Vraiment, c'est plein de poésie, c'est plein de folie. J'ai adoré personnellement. merci, Damien.
Mais avec plaisir.
Tu reviens quand tu veux. T'es ici chez toi. Hein.
Ouais. Écoute, demain.
En direct. Tu sais que la dernière fois que tu étais venu, je t'avais demandé si ça t'intéressait de nous faire une petite chronique.
Et oui.
On a reçu plein de lettres, au moins des dizaines de milliers de lettres.
Bah oui, je me
qu'est-ce
doute.
Qu'est-ce qu'il fait
bah ouais, je me doute. Mais on va s'y mettre. En plus, Aurélien, il avait trouvé, j'aimais bien son titre, Les états d'âme.
Les états d'âme, j'avoue. C'est la fin de cette matinale. On se retrouve mercredi avec Ali, qui est menacé par une OQTF. Il viendra nous parler de sa situation. Nous serons aussi avec Baptiste, qui a réalisé avec Ponté Prod un court-métrage sur les migrants et la situation catastrophique qu'ils vivent. Merci à tous et à toutes de nous suivre. Merci beaucoup à tous les trois. Et bah justement, tiens, on se quitte avec le choix musical de Mathieu. Yeah. YNB met des bombes. Il paraît que ça va sauter.
Il est là, Baptiste.
Cadeau du ciel, tombé, près des décombres, compté, manquer la cible, trompé, tant pis. Radar vise, appui, bémé des bombes et les corps s'empilent. Bémé des bombes et les corps s'empilent. Raye la carte, lance le missile, ton territoire est à portée de main. Pas d'angle mort, parle à tes morts. Bémé des bombes et demain deviens loin. Bémé des bombes et demain deviens. Tu veux que les choses explosent. Tu veux que les choses explosent, hein. Tu veux que les choses explosent. Voici le mot d'ordre. 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 Tu veux que les choses explosent. Tu veux que les choses explosent, hein. Tu veux que les choses explosent. Voici le mot d'ordre. 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 Pémer des bombes, ramper, cadeau du ciel, tomber, près des décombres, compter, marquer la cible, tromper, tant pis. Radar, vise, appui, pémer des bombes et les corps s'empilent. Pémer des bombes et les corps s'empilent. Raye la carte, lance le missile, ton territoire est à portée de main. Pas d'angle mort, parle à tes morts. Pémer des bombes et demain deviens loin. Pémer des bombes et demain deviens. Tu veux que les choses explosent, hein. Tu veux que les choses explosent, hein. Tu veux que les choses explosent, hein. Voici le mot d'ordre. 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 Tu veux que les choses explosent. Tu veux que les choses explosent, hein. Tu veux que les choses explosent. Voici le mot d'ordre. 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 Pémer des bombes, ramper, cadeau du ciel, tomber, près des décombres, compter, manquer la cible, tromper, tant pis. Radar, vise, appui, pémer des bombes et les corps s'empilent. Pémer des bombes et les corps s'empilent. Raye la carte, lance le missile, ton territoire est à portée de main. Pas d'angle mort, parle à tes morts. Pémer des bombes et demain deviens loin. Pémer des bombes et demain deviens. Tu veux que les choses explosent. Tu veux que les choses explosent, hein. Tu veux que les choses explosent. Voici le mot d'ordre. Voici le mot d'ordre. Voici le mot d'ordre.